Pour la dignité, c'est tout de suite sur Fréquence Mistral, cette émission pour les droits humains, émission mensuelle réalisée et préparée et animée par Régis Coulange, responsable formation à Amnesty International. Bonjour Régis.
Bonjour. Alors dans cette émission, je vais vous proposer bien sûr de parler de l'Iran. Je vais plutôt orienter mon sujet sur les prisonniers en Iran. Et puis je vous livrerai le témoignage de Lera Bourlakova, qui fait partie d'Amnesty International Ukraine, et qui nous raconte un peu comment elle vit cette guerre. On parlera de Gaza et du sort des personnes âgées là-bas. Et puis, en continuant notre émission « Ma vie sous Trump », je vous livrerai le témoignage de Nora Sandigo, qui est une femme assez exceptionnelle qui habite en Floride. Et puis ensuite, je vous parlerai de la rencontre qui va avoir lieu demain à 18h30 au Théâtre Durance. À partir d'un livre, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, cette phrase célèbre qui est décortiquée dans ce livre. Et un comédien va nous en livrer quelques passages et puis il y aura un débat ensuite. Et puis ensuite, on terminera par le Festival au cinéma pour les droits humains d'Amnesty International. Festival qui se passera dans toute la région, mais à Digne, nous aurons donc 3 séances au Ciné-Étoile, le jeudi 12 mars, le 19 et le 26. Voilà. Donc on va commencer par l'Iran. Alors bien sûr, vous suivez tous l'actualité qui change tous les jours, même minute par minute. Je vous livre juste un témoignage d'Alizar Ganatowi, qu'on avait reçu ici et qui était venu à Digne, qui est un exilé politique, un réfugié politique d'Iran, qui a pu être libéré de prison parce qu'il a donné sa maison à l'État. C'est une pratique assez courante et c'est comme ça qu'il a pu sortir de prison et partir. Et c'est comme ça aussi que l'État et tous les hauts dignitaires sont très, très, très riches. Voilà. Alors voilà ce qu'il nous dit. Le corps de Zahak est tombé. Alors Zahak, c'est dans la tradition très ancienne persane. Maintenant, c'est au tour de la serrure. La nouvelle arrive et remplit en exil mes écrans. Le corps du dictateur est tombé. Khamenei a été tué. Le peuple iranien est submergé de joie à la fin d'une dictature de 47 ans. Mais dans notre culture, la mort d'un homme n'a jamais été la fin de l'histoire. Voilà, donc on est tous partagés entre l'espoir que le peuple puisse enfin trouver la démocratie, la liberté, l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis la crainte que cette guerre amène encore de nombreux morts et que ce régime dictatorial perdure malgré tout. Voilà, alors je vais vous parler des gens qui sont en prison. Alors vous savez qu'il y a Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, qui avait été libéré pour des raisons médicales et puis qui à nouveau a été emprisonné. Bien sûr, on ne sait pas ce qu'elle risque, mais on espère que ce qui se passe va permettre de la faire libérer. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un changement des régimes. Et puis, on a enquêté aussi, et on a au moins les noms de 30 personnes qui risquent la peine de mort pour avoir participé aux manifestations de janvier. Ils sont une trentaine, ils sont majoritairement jeunes, comme sont majoritairement jeunes les plus de 30 000 personnes qui ont été tuées aux dernières manifestations. Certains sont à peine majeurs, deux d'entre eux sont encore des enfants. Aujourd'hui, ils risquent la peine de mort pour avoir participé aux récentes manifestations de janvier en Iran. Des manifestations réprimées dans une violence inimaginable par les autorités iraniennes. En janvier, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, d'autres blessées. Aujourd'hui, les autorités continuent de faire régner la peur. Depuis le 28 décembre 2025, des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées arbitrairement et menacées de la peine capitale dans les plus brefs délais. Dans le pays, la peine de mort est utilisée comme un véritable outil de dissuasion contre l'opposition. Une arme pour semer la peur et briser la résistance d'un peuple entier face aux crimes et à l'impunité du pouvoir iranien. Nous devons soutenir la résistance des Iraniens. Ils aspirent au respect de leurs droits, leur liberté, plus de justice. Ils demandaient des changements fondamentaux pour leur pays. Tous ont été arrêtés et détenus arbitrairement en janvier. Tous ont été condamnés à mort quelques semaines plus tard par les autorités iraniennes pour leur participation aux manifestations de janvier 2026. Il y a d'autres personnes, bien sûr, qui risquent aussi la peine de mort. Tous sont jugés ou attendent aujourd'hui leur procès. Des procès entachés d'aveux obtenus sous la torture, pratique courante en Iran. Des procès sans la présence d'avocats indépendants à leur côté pour les défendre. Les autorités montrent ainsi leur profond mépris pour le droit à la vie et à la justice en menaçant de procéder à des exécutions accélérées et en prononçant des condamnations à mort issues de procès expéditifs, quelques semaines seulement après l'arrestation des accusés. C'est ce que nous a dit Diana Etlaoui, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International. Aujourd'hui, les mineurs et les jeunes sont les premiers visés par l'engrenage répressif qui a suivi les manifestations. Ils sont arrêtés arbitrairement, détenus au secret, ils sont torturés et soumis à des aveux forcés. Ils sont jugés dans le cadre de procès expéditifs. Un schéma systématique que nous dénonçons déjà depuis des années, depuis le soulèvement Femme, Vie, Liberté en 2022. La peine de mort est instrumentalisée de manière croissante par les autorités. Elle est utilisée comme une arme pour semer la peur, pour écraser l'opposition, pour punir les communautés marginalisées. Et ces derniers mois, la hausse continue des exécutions en Iran a atteint des proportions effroyables. En 2025, c'est plus de 1300 personnes qui ont été exécutées entre janvier et octobre seulement. Un record sur ces 30 dernières années. En 2024, l'Iran comptait parmi les trois pays qui exécutaient le plus. Il est temps de mettre un terme à ce cycle infernal de violence en Iran. Nous demandons un renvoi de la situation en Iran par le Conseil de sécurité de l'ONU devant le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Voilà, on demande la mise en place de mécanismes de justice internationale pour poursuivre les auteurs de crimes relevant du droit international. Nous demandons aux États d'ouvrir des enquêtes pénales en s'appuyant sur le principe de compétence universelle. Voilà, donc on espère que les événements actuels vont permettre de libérer tous ces innocents qui risquent d'être exécutés si le pouvoir arrive à se maintenir en place. Voilà, on va écouter la chanson « Baraillé ». C'est une chanson qui a été inspirée par Femme, Vie, Liberté. Un jeune chanteur iranien, Shervin Hajipour, publie la chanson « Baraillé », écrite en s'inspirant de tweets d'internautes iraniens et iraniennes. 40 millions de vues plus tard, le jeune homme est arrêté. Libéré sous caution, il est depuis réduit au silence. Voilà, donc vous pouvez voir ce clip sur Internet. C'est un arrangement musical de Benjamin Biolay. On écoute « Baraillé ».
برای توی کوچه رقصیدم، برای ترسیدم، به وقت بوسیدم، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زپرگر و آرزوراش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگ‌های بی‌گناه ممنوعه، برای گریه‌های بی‌وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که می‌خنده، برای دانش آموز و برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نامه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه، برای غیر تکراری، برای این همه شور های توهاری، برای آور هوری های پوشانی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای خالصای اعصاب و بیغوبی، برای مرد میخن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود،
برای زن زندگی
آزادی.
Voilà, on va un peu parler de l'Ukraine. Donc on a le témoignage du membre d'Amnesty, Lira Bourlakova. Donc 4 ans après l'invasion totale de l'Ukraine, les équipes d'Amnesty International Ukraine sont restées sur place pour enquêter sur les violations des droits humains. Donc notre collègue raconte son quotidien de mère et de défenseuse des droits humains dans un pays en guerre qui a dû s'adapter pour survivre. L'intervention militaire russe en Ukraine a commencé bien avant l'invasion de grande ampleur lancée par la Russie en 2022. À l'époque, en 2014, nous dit-elle, j'avais quitté mon emploi de journaliste que j'adorais et rejoint l'armée ukrainienne. C'est le sentiment de culpabilité qui m'y a poussé. Durant le mouvement de l'Euromaïdan, des gens se sont fait tirer dessus dans les rues de Kiev. Certains n'avaient même pas 18 ans. Ils défendaient la liberté. J'avais bâti ma vie en déclarant que je défendais la liberté moi aussi. Mais soudain, ces paroles me semblaient insuffisantes. Des adolescents et des adolescentes étaient morts alors que j'étais toujours en vie. À cette époque-là, il y avait un gouvernement pro-russe en Ukraine. Rejoindre l'armée était la seule manière de vivre avec cette culpabilité, la seule manière de pouvoir me regarder en face. J'ai servi en première ligne pendant 3 ans et j'ai quitté l'armée avec un handicap. J'ai ramené la guerre chez moi depuis l'est de l'Ukraine. Quand je parlais de mes visions de bombes tombant en plein centre de Kiev, ma psychothérapeute pensait que je souffrais d'anxiété ou d'un stress post-traumatique. Pour moi, c'était ni l'un ni l'autre. C'était une prédiction. Et pourtant, la vie a continué dans ce qui était encore de paisibles villes ukrainiennes, la mienne aussi, mon fils aîné. Début 2022, de nombreux Ukrainiens sentaient déjà que l'invasion était proche, même si nous ne voulions pas le croire. Quelques semaines avant le début de cette invasion totale, j'étais en déplacement professionnel à Francfort et je devais prendre l'avion le soir même pour entrer à Kiev. La compagnie aérienne a annulé le vol. Leur équipage ne voulait plus passer la nuit en Ukraine. Mon enfant était à Kiev. Je savais à quoi ressemblait la guerre. Être coupé du monde au milieu des ruines et des incendies. J'avais déjà vu tout cela. J'avais déjà perdu mon fiancé pendant la guerre. J'étais terrifié à l'idée que l'aéroport de Kiev devienne, comme celui de Donetsk, du jour au lendemain, un jour des vols existent, 24 heures plus tard, ils n'existent plus. Un jour, la vie pulsait, le lendemain, elle prenait soudainement fin sous les décombres. Le vol du matin était maintenu. Je suis rentré en avion, j'ai rapidement fait mes bagages, mis mon fils dans la voiture et nous avons quitté l'Ukraine le jour même, des semaines avant le début de l'invasion. Le 24 février, j'étais donc à l'étranger. Mes parents ont appelé ce matin-là pour dire au revoir. Ils ont heureusement survécu. Ce qui me terrifiait, ce n'étaient pas les bombardements. J'avais vu les Russes de près. J'avais vu comment ils traitent les civils et les prisonniers de guerre. Je savais ce que l'occupation signifiait. Boutcha ne fut pas un choc. Vous vous souvenez cette ville où vous avez assassiné les gens? Alors je suis revenu la même année. On va mettre une chanson maintenant de Clara Luciani et après je vous raconterai la suite de ce témoignage.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell above us, but us only sky. Imagine all. I'm a dreamer.
Voilà, alors la suite du témoignage de Lera Bourlakova, qui est membre d'Amnesty International Ukraine. Donc elle était partie d'Ukraine, elle est revenue avec son fils qui avait 4 ans. La première fois qu'il a entendu une sirène d'alerte aérienne, il a pleuré. Je lui ai dit, la sirène n'est pas là pour te faire peur. Elle sert à t'avertir pour que tu puisses être prudent. Nous avons conservé cette manière de voir les choses. Comme tout le monde ici, nous avons appris à nous adapter à des choses auxquelles personne ne devrait jamais avoir à s'adapter. Les premiers mois et maintenant encore, la survie était synonyme de compromis. Nous n'avons pas d'abri anti-bombe dans notre immeuble. Le plus proche est une station de métro. Si vous courez vous mettre à l'abri 5 fois par jour, souvent pendant la nuit, avec un enfant et des chiens dans les bras, vous ne pouvez plus fonctionner. Les enfants ne peuvent plus apprendre. Les adultes ne peuvent plus travailler. Il est parfois plus dangereux de fuir. Les missiles balistiques volent plus vite que vous ne pouvez vous mettre à l'abri en sécurité. Alors, vous évaluez les différentes possibilités. Vous choisissez quand ignorer la sirène. Vous choisissez quand rester. Cet hiver-là a été le plus dur. Depuis mi-janvier, il n'y a plus de chauffage dans notre immeuble. Les températures sont tombées à des niveaux extrêmement bas. Nous vivons dans une seule pièce. Je me suis souvenu du Donbass, des immeubles détruits, des fenêtres calfeutrées avec des couvertures, dormir avec un bonnet sur la tête, et j'ai utilisé tout ce que je savais. Le mode survie rétrécit la vie. Votre horizon devient saisonnier. On vit jusqu'au printemps. Les gens demandent pourquoi nous ne partons pas. On ne peut pas évacuer 3 millions de personnes hors de Kiev. Et surtout, la Russie veut la panique. La Russie veut que nous partions. C'est précisément pourquoi nous ne le faisons pas. Mon conjoint est dans l'armée, je le vois à peine. Peut-être 2 semaines au cours de l'année écoulée. J'ai déjà perdu quelqu'un que j'aimais dans cette guerre. Alors parfois, la peur m'étreint si fort que j'ai du mal à respirer. Le plus douloureux est le temps volé. C'est la seule vie que nous avons, mais qui est désormais réduite en de courtes visites de ceux qu'on aime et avec des retours incertains. Mon fils est un garçon joyeux et curieux. Il aime les gaufres, les Legos et Star Wars. Il pense que le bien l'emporte sur le mal à la fin. Nous essayons de vivre selon cette conviction, même lorsque nous sommes fatigués. Presque toutes les nuits, nous sommes réveillés par des attaques aériennes. Nous dormons sur un matelas dans le couloir. Il n'y a pas de fenêtre. Rien ne vous sauve d'un tir direct, mais les murs vous protègent des éclats de verre. Tous les matins, on vérifie si une alerte aérienne a été annoncée. Si c'est le cas, l'école commence 1 heure après la fin de l'alerte. Les écoles ne sont ouvertes que si elles ont des abris. Les enfants continuent à étudier dans des abris souterrains lorsque cela est nécessaire. Je travaille essentiellement depuis chez moi ou sur le terrain. Mon équipe et moi travaillons avec des médias étrangers et ukrainiens, organisons des expositions pour sensibiliser l'opinion et livrer des récits, et recueillons un large nombre de témoignages et des centaines d'histoires personnelles. Il n'y a pas de chauffage, souvent pas d'électricité, parfois pas d'eau. Les cafés, quant à eux, restent ouverts grâce à des générateurs vomissants. Vous pouvez recharger votre ordinateur portable n'importe où. La boulangerie d'en face ouvre chaque matin avec des viennoiseries à la cannelle toutes chaudes. Les gens s'entraident constamment. Ici, la solidarité n'est pas un slogan, c'est une infrastructure. Travailler dans ces conditions est difficile, mais c'est exactement pourquoi nous devons être là. Le travail en faveur des droits humains ne peut pas être délocalisé vers des pays plus sûrs. Il requiert que nous vivions dans les mêmes conditions que les personnes dont nous recueillons les témoignages. Quand on parle à des gens qui ont tout perdu, on se sent chez soi étrangement. Certaines de nos expériences sont similaires. Nous nous comprenons sans avoir besoin de longues explications. Nous nous tombons dans les bras. Même des parents ayant perdu des enfants dans des frappes aériennes russes continuent à s'exprimer publiquement. Ils parlent du fruit préféré de leur enfant, de leur mot favori, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'ils veulent empêcher une nouvelle mort. Je travaille avec des familles de prisonniers de guerre. Une femme atteinte d'un cancer en phase terminale a attendu pendant plus de 3 ans son mari qui était détenu au secret. Quand il a finalement fait l'objet d'un échange, elle a posté une photo où ils s'embrassent. La légende disait « Nous avons gagné ». C'est comme cela que je conçois la victoire. Rester nous-mêmes dans les conditions les plus éprouvantes, ne pas laisser qui que ce soit changer qui nous sommes, qui nous aimons, où nous vivons. Nous ne faisons pas de projets lointains. Pour nous, Amnesty International est une porte vers le monde, une manière d'exprimer ce que nous vivons. même quand l'attention mondiale se porte sur autre chose. Nous ne sommes pas une histoire éphémère, nous sommes des personnes, nous avons des droits. Amnesty nous donne une tribune, du soutien, un point institutionnel et la confiance que confère son nom. Elle permet à nos témoignages de franchir nos frontières, d'atteindre des décideurs, des journalistes et des personnes ordinaires qui n'en prendraient jamais connaissance autrement. Amnesty nous donne l'espoir que tôt ou tard, toute la souffrance des personnes innocentes qui ont été tuées dans cette guerre d'agression sera honorée par la justice. J'espère toutefois que ce sera plus tôt que tard, car nous voulons tous en être témoins. Voilà ce témoignage très fort de cette membre d'Amnesty International Ukraine. Et ce témoignage pourrait se retrouver aussi en Iran et dans tous les pays en guerre, hein, au Soudan, etc. Voilà. On va maintenant parler de Gaza et de la situation des personnes âgées. On n'en parle pas beaucoup, mais elles sont confrontées à une crise sanitaire majeure. Si la souffrance n'a pas d'âge, la leur est insupportable. Et à travers leur histoire, c'est celle de tout un peuple que l'on lit. Privé de nourriture, de soins, de médicaments, de toit. Et pour certains, de la possibilité même de fuir et de se déplacer. À Gaza, la population est privée de vivre. Le génocide se poursuit en toute impunité. À 88 ans, Samira a perdu 20 kilos depuis octobre 2023. Comme tant d'autres, elle a dû fuir sa maison, son cocon. Elle vit aujourd'hui réfugiée dans un camp. Avec son grand âge, chaque déplacement est devenu un véritable défi. Auparavant, elle s'aidait de son déambulateur. Mais sur le terrain sablonneux du camp, il n'y avait plus d'aucune aide. Alors sa tente est devenue un refuge permanent, une prison. Comme Samira, nombre de personnes âgées que nous avons interrogées déplorent avoir perdu énormément de poids. À Gaza, la famine s'infiltre dans tous les corps. À cause du blocus imposé par Israël, l'alimentation est devenue une denrée rare. Des milliers de personnes dépendent de cantines qui ne sont pas à même de fournir de quoi manger en quantité suffisante. Pour les personnes âgées à Gaza, la maladie est un autre véritable défi au quotidien. Les problèmes de santé chroniques, comme le cancer ou le diabète, font légion parmi les plus âgés. Or, pour la majeure partie de la population, l'accès aux soins est impossible. D'après l'Organisation mondiale de la santé, moins de 14 des 36 hôpitaux de Gaza fonctionnaient partiellement au mois d'octobre 2025. Et moins d'un tiers des services de rééducation étaient ouverts. De fait, beaucoup sont contraints d'arrêter ou de rationner leurs médicaments, soit parce qu'ils sont devenus indisponibles, soit parce que leur prix a triplé, voire quadruplé. Comme tant d'autres, Mohamed Billy, 61 ans, se retrouve privé des soins dont il a besoin. La structure de santé où il se rendait auparavant a été détruite. Désormais, il ne reçoit plus que 2 dialyses par semaine, alors qu'il faut une dialyse tous les 2 jours. Depuis octobre 2023, il a subi 7 déplacements forcés et perdu 20 kilos. Impossible pour lui de se déplacer librement dans le camp depuis son fauteuil roulant. Sur place, c'est aussi la santé mentale des plus âgés qui est considérablement impactée. La tristesse, l'anxiété, la solitude et les insomnies à répétition contribuent au dénuement et à l'immense souffrance auxquelles ils sont confrontés. Être âgé à Gaza, c'est aussi vivre des déplacements forcés à répétition. Être obligé de fuir, même quand l'on ne peut plus marcher. Être obligé de fuir seul, quand on a perdu tous ses proches. À l'âge d'environ 90 ans, Sadika Al-Barawi a été déplacée 3 fois depuis octobre 2023. Aujourd'hui, elle vit dans une tente avec sa famille dans le camp d'Aïs Salam. Une nuit de janvier 2025, elle est tombée en tentant de se rendre aux toilettes. Depuis, impossible de tenir debout ou de marcher. Comme Sadiga, Mohamed ou Samira, des milliers de personnes âgées ont été contraintes de fuir leur foyer depuis octobre 2025. Entre la destruction des habitations par l'armée israélienne et les déplacements forcés incessants, la grande majorité d'entre elles sont privées de logements décents. Abritées sous des tentes de fortune, elles doivent survivre à des conditions extrêmes. Cet hiver a été particulièrement rude, avec des vents violents et des fortes inondations. Les conditions de vie inhumaines auxquelles sont confrontées les personnes âgées nous éclairent brutalement sur la situation humanitaire catastrophique à Gaza aujourd'hui. Malgré l'accord de cessez-le-feu d'octobre 2025, les attaques d'Israël se poursuivent, avec de nouvelles frappes meurtrières dernièrement. Le 1er janvier, Israël a en outre suspendu les autorisations de 37 ONG présentes à Gaza et en Cisjordanie en leur ordonnant de cesser leur activité sous 60 jours. Cette mesure a été annulée récemment, heureusement. L'ouverture récente d'un point d'acheminement à Rafah, longuement attendue, reste fortement restreinte. Une réponse insuffisante face à l'ampleur des besoins. En décembre 2024, Amnesty International concluait qu'Israël était en train de commettre un génocide à Gaza. Aujourd'hui, nos observations sont claires. Le génocide se poursuit en toute impunité. La population palestinienne continue d'être privée de tout, de nourriture, d'eau, de logement, de soins de santé. Elle reste condamnée à une mort lente et calculée. Les droits des personnes âgées à Gaza ne doivent pas être ignorés et leur sort ne doit pas être oublié. Les autorités israéliennes doivent lever leur blocus immédiatement et sans condition pour permettre d'acheminer librement les produits essentiels, y compris des médicaments et des matériaux, pour construire des abris. On va maintenant écouter Lenny Escudero qui chante son grand-père.
Grand-père, laisse-moi te raconter pour dire aux autres qui tu étais et leur donner tes souvenirs pour ne pas les laisser mourir pour un petit instant ressusciter des morts et remonter le temps pour que tu chantes encore. Il paraît que tu avais le cœur à nu. Je dis il paraît parce que je ne t'ai pas connu. Un fantôme me hante. Grand-père, je t'invente et je te fais corps. Je t'aurais voulu, un fantôme me hante. Grand-père, je t'invente et je te fais corps. Je t'aurais voulu. On dit que t'avais des enfants avec les nymphes de l'étang, qu'on les entendait jusqu'au jour chanter une chanson d'amour. Accroché à ton dos, il traversait la mer jusqu'à l'Eldorado, le pays sans hiver. Tu étais un très grand magicien, tu avais un dieu dans chaque main. Un fantôme me hante. Grand-père, je t'invente et je te fais corps. Je t'aurais voulu. Un fantôme me hante. Grand-père, je t'invente et je te fais corps. Je t'aurais voulu. On dit que t'étais un peu fou, que tu parlais avec les loups, qu'ils étaient tes frères humains, qu'ils venaient manger dans ta main, et qu'au petit matin, Mathieu le vieil hibou écoutait un humain hurler avec les loups. Tu étais descendant de Mowgli, tu aimais comme on aime la vie. Un fantôme me hante. Grand-père, je t'invente et je te fais comme je t'aurais voulu. Un fantôme me hante, grand-père, je t'invente et je te fais comme je t'aurais voulu. Tu dormais nu avec la vie, tu préférais le sable à l'or, tu dansais avec la folie et montrais ton cul à la mort. Et tu jurais bien haut qu'il faudrait 100 000 ans à la dame à la faux pour t'arracher les dents. Tu étais l'envoyé de Satan, tu savais endormir les enfants. Un fantôme me hante, grand-père, je t'invente et je te fais comme je t'aurais voulu. Un fantôme me hante, grand-père, je t'invente et je te fais comme je t'aurais voulu. Puis tu es mort un soir d'été, sans faire de bruit et sans regret. Ta femme encore se porte bien, ton chien est mort le lendemain. Il faut être vivant pour avoir du chagrin. Il faut être vivant pour avoir du chagrin. Il paraît que tu avais le cœur à nu. Je dis il paraît parce que je ne t'ai pas connu. Un fantôme me hante, grand-père, je t'invente et je te fais comme je t'aurais voulu. Un fantôme me hante, grand-père, je t'invente et je te fais comme je t'aurais voulu.
Voilà, on va maintenant parler de ma vie sous Trump, avec un témoignage très fort de Nora Sandigo, qui, depuis 30 ans, vient en aide aux familles immigrées. C'est elle qui nous a permis de rencontrer une famille dont le père a été arrêté par la police de Trump. Voici leur vie sous Trump. S'ils arrêtent mon père ou ma mère, tu voudras toujours t'occuper de nous ? Au bout du fil, un adolescent en panique. Nora Sandigo, la voix calme, le rassure. C'est sa tutrice légale aux États-Unis. S'occuper des enfants, elle le fait depuis 30 ans. Cette Nicaraguaine de 60 ans, naturalisée américaine, a plus de 700 enfants sous sa protection. Depuis 2006, avec sa fondation, Nora Sandigo Children Foundation, elle vient en aide aux familles immigrées en devenant la tutrice légale des enfants dont les parents ont été expulsés ou risquent de l'être. À Miami, on la surnomme la Grande Madre, la Bonne Mère. Ma vie est au service de celle des autres, dit-elle comme une évidence. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les opérations de la police de l'immigration se sont considérablement intensifiées. Il a fait de cette police son bras armé pour traquer partout les personnes étrangères. Depuis, les téléphones de Nora n'arrêtent pas de sonner. Je reçois près de 20 appels par jour de familles désespérées. Elle marque une pause. Du jamais vu. Terrorisés d'être arrêtés et d'être séparés de leurs enfants, des parents appellent Nora pour lui confier la garde de leur enfant au cas où. En tant que tutrice légale, elle peut accompagner les enfants chez le médecin, les conduire à l'école, les représenter légalement. Si un jour les parents sont arrêtés, c'est elle qui prendra en charge les enfants et subviendra à leurs besoins. En 2025, le nombre d'enfants placés sous sa tutelle a dépassé celui de toutes les années précédentes. Face à ce qu'elle décrit comme le moment le plus sombre de l'histoire de l'immigration aux États-Unis, Nora a vu le quotidien des familles bouleversées. Elle se souvient de cet appel d'une maman désemparée. Son fils faisait une crise de panique. Il avait aperçu depuis la fenêtre de leur maison une voiture qu'il ne connaissait pas dans le quartier. Il pensait que c'était la police. Nora est arrivée en quelques minutes, toujours prête à rassurer, écouter, parler. Le suivi psychologique fait partie intégrante de son travail. Des familles ont tellement peur qu'elles n'osent même plus parler. Chaque dimanche, Nora reçoit plusieurs familles dans sa fondation, dans le sud de Miami. Elle est réunie, fait venir des médecins et des psychologues pour recueillir la parole des enfants. Un espace de confiance, de respiration, peut-être le seul où les familles peuvent un peu baisser la garde. C'est là qu'elle nous a présenté Maria. Maria, à 35 ans, est originaire du Guatemala. Elle passe l'après-midi chez Nora, qui est devenue la tutrice légale de ses deux enfants, Alma et Alex. Maria vit en Floride depuis 8 ans. Sans papier, elle élève ses enfants seule désormais. Son mari Roberto, le père des deux enfants, a été arrêté par la police de l'immigration. Le 29 septembre 2025, ce matin-là, comme tous les lundis, Roberto part tôt. Il travaille dans le bâtiment. Ses chantiers sont à 1 heure de route de la maison. Depuis quelques semaines, il change ses trajets, fait des détours, évite certains axes, par crainte de croiser la police. Mais ce matin-là, la police de l'immigration est sur sa route. Roberto est embarqué. Il a juste le temps de passer un appel. L'immigration m'a attrapé. La ligne se coupe. Maria est au bout du fil. J'ai ressenti une douleur impossible à décrire. Il est 6h30 du matin quand elle apprend l'arrestation de son mari. Ma fille dormait encore quand son père a été arrêté. Elle attend que sa fille se réveille, prépare le petit déjeuner, l'accompagne à l'école. Elle ne dit rien, pas encore. Elle ne veut pas perturber sa journée. Maria attendra son retour de l'école pour lui annoncer que son père a été arrêté. Alma, 11 ans, elle vivait simplement sa vie d'enfant jusqu'à ce dernier lundi de septembre. Elle nous parle depuis le canapé de Nora, téléphone à la main en visio sur WhatsApp. Jamais je n'aurais imaginé l'arrestation de mon père. J'avais une vie tranquille. Depuis qu'ils ont arrêté mon père, ma vie n'est plus la même. Elle nous parle de son père, c'est un père formidable. Elle raconte leur rituel de famille, les balades et les jeux dans le grand parc de Miami, leur sortie dans son restaurant préféré. C'est mon père qui nous emmenait. Maintenant, ils n'y vont plus. Et si un jour il t'arrête, maman, qu'est-ce qui va nous arriver ? Malgré le risque d'être arrêtée, Maria a fait le choix de continuer d'accompagner sa fille à l'école tous les matins. D'autres familles ont fait un choix différent. Leurs enfants restent à la maison avec des cours en ligne. Maria ne veut pas de ça pour Alma. La matière préférée de sa fille, c'est l'éducation physique. Le parc, c'est fini, mais à l'école au moins, elle peut encore souffler un peu, courir, être une enfant. Après l'appel furtif de son mari, passé au moment de son arrestation, Maria n'a plus aucune nouvelle de lui. Elle a passé ses journées à éplucher les registres des centres de rétention. Roberto n'y figurait pas. 3 jours sont passés avant que Roberto ne finisse par l'appeler. Il avait été envoyé à Alligator Alcatraz, un centre de détention créé à la hâte en juin 2025 par l'État de Floride, financé par l'administration Trump, sans aucun registre officiel de détenus. Voilà la terrible histoire de cette famille et cette femme assez extraordinaire à Miami, en Floride. On écoute la dernière chanson de Bruce Springsteen, Street of Minneapolis.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light,
citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice saying in through the bloody mist, we'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, so just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ICE out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Voilà, maintenant je vais vous parler des activités donc du groupe dinois d'Amnesty International. Alors pour le mois de mars, ça commence demain puisque on a été invité par le théâtre Durance à Château Arnoux pour participer à une rencontre autour d'un livre qui s'appelle « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort ». C'est un livre de Pierre Thévanian et Jean-Charles Stevens. Alors Jean-Charles Stevens est un expert juriste qui a travaillé pendant une dizaine d'années dans plusieurs associations belges de défense des droits des étrangers. Et Pierre Thévanian est philosophe, enseignant, co-animateur du site « Les mots sont importants ». Donc, avec Sébastien Valignat, metteur en scène, Pierre Thévanian, auteur et des acteurs locaux pour déconstruire ensemble une xénophobie autorisée, en finir avec une sentence de mort. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Qui n'a jamais entendu cette phrase ? 10 mots qui tombent comme un couperet et qui sont devenus l'horizon indépassable de tout débat raisonnable sur les migrations. Comment y répondre ? Sébastien Valignat, metteur en scène et comédien de la compagnie Cassandre, propose une plongée collective à partir de cet essai de Pierre Thévanian et Jean-Charles Stevens, en invitant comédiens, auteur du livre et acteurs locaux, à échanger autour de cette sentence de mort et de pointer et réfuter les sophismes et les contre-vérités qui la sous-tendent. Après une lecture du texte par les comédiens, nous sommes invités à prendre part à l'échange. Une soirée pour prendre le temps de se questionner ensemble sur notre rapport à l'hospitalité dans un contexte politique mouvementé. Donc ce sera demain, mardi 3 mars 2026, à partir de 18h30, au Théâtre Durance, plateau des Lozières à Château-Anouk-Saint-Auban. La soirée est prévue pour durer 2 heures. Donc il y aura des comédiens qui mettront en scène une partie de ce petit livre. Et puis des associations qui seront interpellées, donc RESF et Amnesty International et l'association de soutien aux jeunes isolés étrangers. Et puis il y aura un petit débat avec le public, dont je vous invite à venir nombreux demain à 18h30 au Théâtre Durance, Château-Arnoux, pour participer à cette rencontre autour de cette phrase « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ».
Est-ce que c'est payant ?
Non, l'entrée est gratuite.
Voilà.
Voilà, c'est vrai. Ensuite, au mois de mars, nous avons notre festival qui se déroule dans toute la région du Sud-Est. Et nous, à Digne, on a choisi des films et on vous propose 3 séances. Alors, la première séance, c'est le jeudi 12 mars avec le film « Les fleurs du manguier » que nous passerons en avant-première. Donc, c'est le 12 mars, jeudi 12 mars, à partir de 18h. On vous passera Les fleurs du manguier. Ce film narre le périple migratoire de 2 jeunes enfants Rohingyas partis rejoindre leur famille en Malaisie. Présenté à la Mostra de Venise cet automne, où le film y a remporté le prix du jury de la sélection Horizonti, il a noté qu'il s'agit également du premier film tourné en langue rohingya. Dans l'espoir de retrouver leur famille dispersée, sa fille, 4 ans, et sa sœur Somira, 9 ans, quittent un camp rohingya au Bangladesh. Voilà, donc on va pour... Ils espèrent rejoindre la Malaisie. Guidés par leur regard d'enfant, ils entreprennent une traversée périlleuse. Voilà, donc il y a des acteurs Rohingyas, c'est cette donc, communauté qui vit en Birmanie, communauté musulmane et qui est persécutée par le régime. Hein, ils ont brûlé les villages et beaucoup de Rohingyas ont été obligés de fuir. Voilà, c'est un premier film avec des acteurs et en langue Rohingya. La deuxième séance sera le jeudi 19 mars. Nous vous proposons 6 courts-métrages et cette séance sera gratuite. Donc, n'hésitez pas à venir. Alors, premier court-métrage s'appelle « Aux âmes Christopher » de Élise Amblard. Donc, c'est l'histoire d'un jeune identitaire, Christopher, 17 ans, qui vit avec son père et sa sœur dans une cité de banlieue. Il va se radicaliser tout seul. Et c'est lors d'une éclipse solaire qu'une famille emménage dans la maison voisine. Et donc, vous verrez ce qui va se passer. Deuxième court-métrage, Blas Scarf, de Ali Reza Shah Onesi. C'est un film iranien. Le dernier jour de travail d'un enseignant dans un petit village déserté. Ses élèves lui demandent quelque chose qui va tout changer. Troisième court-métrage, Border. C'est un film américain de 2020, mais qui n'a jamais été présenté en France. Laura, médecin légiste en Arizona, recherche les corps de migrants clandestins piégés dans le désert. Au fil de sa journée de travail, nous découvrons d'innombrables cas de corps non identifiés de migrants et sommes hantés par la mort de ces hommes, femmes et enfants, et du rêve américain. Un sujet donc, l'actualité reste brûlante. Ensuite, Fashion Victim 2.0, c'est l'interprétation animée de la peinture murale réalisée par Esquif en janvier 2022 devant la boutique du multinational de la mode bien connu à Valence. Cette fresque dénonce clairement notre passivité face au travail des enfants et à ses conditions difficiles dans les pays en développement. Ensuite, À la recherche d'un âne de Manrique, Mexique et Venezuela. En 2018, deux pompiers des Andes vénézuéliennes ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un âne comme s'il était le président du Venezuela visitant leur installation délabrée. Le jour même, ils ont été emprisonnés. 6 ans plus tard, les habitants d'Apartaderos ont peur de parler de cette affaire. À l'époque, les gens murmuraient que l'âne avait également été arrêté ce jour-là. Mais personne ne semble savoir ce qui lui est arrivé. En plongeant dans cette petite ville de montagne, la recherche d'un âne commence. Le seul qui ait peut-être réussi à sortir indemne de cette mauvaise blague. Et puis, dernier court-métrage, Romina de Grandinetti. Romina raconte l'histoire vraie d'une jeune fille de 14 ans confrontée à une grossesse non désirée dans un État américain où l'avortement est interdit. Malgré les obstacles juridiques, une communauté se mobilise autour d'elle pour lui permettre d'accéder à l'avortement qu'elle souhaitait. Voilà, donc on vous propose de visionner ces 6 courts-métrages gratuitement, hein, l'entrée est gratuite, donc parlez-en autour de vous, venez nombreux, et c'est rare d'avoir l'occasion de voir des courts-métrages, alors n'hésitez pas à venir. Donc ça sera le jeudi 19 mars à 18h toujours. Et puis, dernière séance, le jeudi 26 mars, nous vous proposerons un court-métrage à Frontera Azur, suivi d'un long-métrage Calais Douvres. Alors, c'est toujours à 18h. Là, c'est entrée payante au tarif habituel. À Frontera Azur, c'est un film de Costa, du Portugal. Un navire clandestin fait naufrage au large d'une petite ville portuaire de la côte andalouse, sans en troubler la routine. Les gardes civils trient, comme tous les jours, les naufragés. Les touristes profitent du beau temps pour faire de la voile et aller à fête foraine. Les camions de nuit partent vers le nord. Les naufragés, hallucinés, découvrent le sol bétonné d'une Europe qui ne les voit pas. C'est un court-métrage qui dure 30 minutes. Et puis nous aurons un film un peu plus long de 50 minutes qui s'appelle Calais Douvres, l'exil sans fin. Chaque année, des milliers de personnes risquent leur vie pour rejoindre illégalement l'Angleterre depuis Calais, à bord de canots pneumatiques et d'autres embarcations de fortune. Il s'agit d'une traversée périlleuse, orchestrée par des passeurs sur la dangereuse Manche. Des hommes et des femmes et des enfants originaires de Syrie, d'Iran et du Soudan poursuivent tous le même rêve, une vie meilleure. Pendant 7 ans, le cinéaste Goudichaud a arpenté les plages de Calais pour documenter cette réalité. Il s'est même embarqué, caméra au point, pour une traversée afin de comprendre et de montrer ce qu'elle représente. À Londres, il a retrouvé ses compagnons d'infortune pour explorer la vie qu'ils espéraient dans cette Angleterre perçue comme un Eldorado. Mais au fil de son enquête, Julien découvre un phénomène tragique et méconnu, la migration inverse. Face aux conditions de plus en plus hostiles pour les demandeurs d'asile en Angleterre, certains fuient à nouveau, souvent pour retourner en France ou ailleurs en Europe. De nouveaux réseaux clandestins apparaissent et l'histoire se répète sans fin. Voilà, à noter que nous aurons la présence d'Andrew Knapp, qui est un historien anglais et qui nous parlera un petit peu de cette situation vue par les Anglais. Voilà, donc ce sera jeudi 26 mars à 18h, cette dernière séance. Donc je vous rappelle, notez bien, c'est toujours à 18h au Ciné-Étoile à Digne-les-Bains. Nous aurons le jeudi 12 mars Les Fleurs du Manguier en avant-première. Le jeudi 19 mars, séance de 6 courts-métrages avec entrée gratuite. Le 26 mars, un court-métrage suivi d'un long-métrage Calais Douvres à 18h toujours. Voilà, n'hésitez pas à venir nombreux. Il y aura dans le hall un stand d'Amnesty et un stand de RESF, puisque RESF est notre partenaire pour les 3 séances. Voilà, on termine cette émission par Salvador Adamo qui chante Migrant.
Merci Agis.
Migrant, je veux jouer ma vie pour une autre meilleure. Où fleurissent des sourires au visage qui pleure. Repoussé par les uns, ignoré par les autres, j'espérais que mon sort devienne un peu le vôtre. Mais que vous importe au fond notre coquille de noix. Migrant, j'ai traversé la mer jusqu'à la première île. Le vent nous a posés sur des rives hostiles. L'enfer de mon pays ne me laisse que le choix de se raffier au bondé d'autres ombres sans voix pour aller voir ailleurs. Pour aller voir ailleurs, si la vie n'y est pas. Avec femmes et enfants, entre crise et prière, nous nous sommes traînés jusqu'au bout des frontières. Certains ferment les yeux et nous disent bonne chance. D'autres sont-ils sérieux, nous renvoient en errance. Migrant, tout au bout du tunnel, je voyais la lumière. On m'a coupé les ailes, on m'a jeté par terre. Je me suis retrouvé comme un délinquant derrière des barbelés, parqués avec mes frères, à me sentir coupable d'être encore vivant, à me sentir coupable d'être encore vivant. Allons frères et aux humains qui près de nous vivaient, n'ayez point contre nous le cœur trop endurci. Vous qui voyez vos mains tendues, désespérées, pour un peu de répit, prêtez-nous un abri. Nous ferons de notre mieux pour ne pas déranger. Migrants, des années de labeur pour payer le voyage. Le passeur en riant nous a dit bon courage. On s'est cru à l'arrivée, mais le monde est-il fou? On nous montre du doigt et on a peur de nous. Nous qui fuyons la mort, nous qui sommes à genoux. Nous qui fuyons la mort, nous qui sommes à genoux.